alors que les habitants de Brest viennent de célébrer, sans le savoir, le dernier Noël de la Grande Guerre, un navire américain, USS Pocahontas, s'amarre dans leur port pour faire débarquer plusieurs milliers de soldats. Les États-Unis sont officiellement entrés dans le conflit le 6 avril, et la ville de Brest est désormais le théâtre d'une titanesque entreprise logistique de l'effort de guerre. Près de 800 000 soldats passeront par le port breton entre 1917 et 1919. La ville sera métamorphosée. De tels flux de personnes et marchandises sont souvent des conduits pour la transmission d'idées et de cultures. L'Europe peut notamment remercier, ou reprocher, aux soldats américains d'y avoir introduit le chewing-gum. Le 27 décembre 1917, lorsque les passagers de l'USS Pocahontas débarquent sur les côtes du Finistère, ils amènent avec eux plus que leur matériel de combat et leur gomme à mâcher. Parmi eux, il y a les musiciens du 15e régiment de la Garde nationale de New York, et leur chef d'orchestre, un homme déjà reconnu comme un pionnier de la musique afro-américaine, James Rhys Europe. Le jazz vient de faire son entrée en France. La ville de Nantes, où s'est tenu le premier concert officiel de l'orchestre de Europe, commémorera du 11 février au 11 mars le centenaire de cette arrivée, avec des concerts, des expositions et des conférences. Je m'appelle Luc Sibright et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. James Rhys Europe, qui demeure pourtant une figure de l'ombre du genre, a eu un impact énorme sur le développement du jazz. Sa réputation aux États-Unis en tant que chef d'orchestre et compositeur était déjà bien établie avant la guerre. Il tenait des concerts dans les cabarets, hôtels et restaurants les plus exclusifs de New York. En 1910, il forme le Clef Club, une société et salle de spectacle pour les musiciens afro-américains à Harlem. L'orchestre du club jouera un concert au Carnegie Hall en 1912 afin de lever des fonds pour le Colored Music Settlement School, une nouvelle école new-yorkaise établie pour offrir des cours de musique aux enfants afro-américains. Cet événement est très significatif dans la mesure où il s'agit de la première fois qu'une salle de concert américaine donne une plateforme à un groupe de musiciens et chanteurs noirs qui jouent un répertoire qui leur appartient. C'est donc la première fois que le public de Carnegie Hall, d'ailleurs exceptionnellement non ségrégué ce soir-là, entend du proto-jazz. Europe était aussi un des rares artistes afro-américains de l'époque à être enregistré. Et entre 1913 et 1914, il fait une série d'enregistrements phonographiques pour la compagnie Victor Talking Machine. Lorsque la guerre éclate, il a 37 ans et il choisit de s'engager dans l'armée. Il est commissionné comme premier lieutenant dans le 15e régiment de la Garde nationale de New York, plus tard rebaptisé le 369e régiment d'infanterie, qui était constitué uniquement de soldats afro-américains. Le commandant du régiment demande à Europe de former le meilleur orchestre de toute l'armée. Une mission qu'il entreprend avec sa caractéristique détermination, allant jusqu'à Puerto Rico pour recruter ses musiciens. Le jazz à cette époque-là était encore dans son enfance, et n'avait pas franchi la barrière de l'Atlantique, faute de moyens de diffusion. La technologie radio joue certes un rôle important dans le dénouement de la Grande Guerre, puisque le président Woodrow Wilson s'en servira pour transmettre à l'Allemagne les fameux 14 points de son programme de paix. Mais elle n'est pas encore utilisée à des fins commerciales. L'Europe n'avait donc pas encore connu sa révolution syncopée. Et qui mieux que le bien nommé Europe pour le lui apporter ? Le 27 décembre 1917 donc, ce dernier débarque à Brest avec son orchestre. Pour marquer leur arrivée, ils font un concert pour les soldats et civils français présents. Ceux-ci sont complètement étonnés par ce qu'ils entendent. À tel point qu'il leur fallut un certain temps pour comprendre qu'il s'agissait en réalité d'une version jazzy effrénée de leur propre hymne national, la Marseillaise. Le régiment est ensuite transféré en Loire-Atlantique, et c'est à Nantes, le 12 février 1918, que se tient le premier concert officiel de l'orchestre, au théâtre Grasselin. S'ensuit une tournée à travers le pays pour faire des concerts dans les camps militaires et dans les villages, pour les troupes alliées et les civils français. Le célèbre compositeur et chef d'orchestre Noble Cecil, un ami de Europe et son sergent dans le régiment, nous décrit dans son livre « Memoirs of Jam Europe » certaines des réactions que pouvait provoquer leur musique. Chaque fois que nous nous arrêtions pour croiser un train de troupes ou de blessés, nous descendions toujours et nous jouions volontiers quand la situation le permettait pour nos amis alliés. Et nos efforts étaient récompensés par tant de cris de joie et de sourires que nous commencions à croire que notre mission en France était celle de distraire ceux qui avaient supporté l'horreur de la bataille. Mais l'horreur de la bataille, les hommes de la 369e l'ont aussi connue. Europe sera notamment victime d'une attaque au gaz, et c'est pendant sa période de convalescence à l'hôpital qu'il écrit son célèbre « On Patrol in No Man's Land ».
What's the time? Nine, all in line. All right, boys, now take it slow. Are you ready? Eddie, a very good Eddie. Over the top, let's go. Quiet, quiet, else you start a riot. Keep your proper distance, follow along. Cover, mother, and when you see me hover, obey my orders and you won't go wrong. There's a minute buffer coming, look out. Hear that roar, there's one more. Stand fast, for there's a very light. Don't gasp, for to find you all right. Don't start to bumming with those hand grenades. There's a machine gun, the holy spade. Alert, gas, put on your mask. Adjust it correctly and hurry up fast. Drop, there's a rocket for the fight barrage. Down, hug the ground, push your can, don't stand. Creep and crawl, follow me, that's all. What do you hear? Nothing near, don't fear, all clear. That's the life of a soul when you take a patrol.
Le régiment, bientôt surnommé les Harlem Hellfighters, connaîtra 191 jours de combat et sera d'ailleurs un moment intégré à l'armée française, car la mixité entre soldats blancs et noirs était encore prohibée dans l'armée américaine. Après la guerre, les Hellfighters retournent à New York et le 17 février 1919, ils font un défilé sur Fifth Avenue devant un public de plus de 2 millions de personnes. L'orchestre enregistre plusieurs titres pour les frères Pathé et font des concerts à travers le pays où ils sont souvent annoncés comme le groupe qui a rendu la France folle de jazz. Au-delà du traumatisme de la guerre, son passage en Europe aura eu un profond impact sur la conscience musicale de Jam Europe. Il écrit « Je suis revenu de France plus fermement convaincu que jamais que les Noirs devaient écrire de la musique noire. Nous avons notre propre perception raciale et si nous essayons de copier les Blancs, nous ferons de mauvaises copies. Nous avons conquis la France en faisant une musique qui était la nôtre et non une pâle imitation des autres. Et si nous devons nous développer en Amérique, nous devons nous développer dans cet esprit. » Malheureusement, il ne verra que très peu de ce développement. Il meurt le 9 mai 1919, poignardé dans le cou par un de ses propres musiciens, qui estimait avoir été traité injustement. Il reçoit des obsèques officielles de la ville de New York, une première pour un citoyen noir. L'arrivée du jazz en France, portée par ce grand homme de la musique, c'est le thème d'un mois de commémoration à Nantes pour son centenaire. Du 11 février au 11 mars, exposition, conférences et concerts sont au programme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site centenaire.org.